Bon, rendons grâce à Dieu pour ce beau temps de prière que nous allons prendre, qui lance notre journée.
J'ai la joie d'accueillir le Père Arnoux, qui était là avant même que je sois né. Non, c'est pas vrai.
Je suis si vieux que ça? Non. Ça marche là?
Oui, t'inquiète pas.
Bon, en fait, alors, t'inquiète pas.
Ça n'a rien à voir avec ça.
Ça n'a rien à voir. Bon. Eh bien, bonjour à tous. Je suis ravi de me retrouver ici, à Paray-le-Monial, où j'ai été prêtre, où j'ai été vicaire, il y a à peu près 40 ans.
Ah bah,
oh, c'est vrai que j'ai l'impression d'être une antiquité à côté de notre frère, là. Alors, je ne sais pas bien ce qui m'arrive. Il a pris le risque de m'inviter aujourd'hui. Ma foi, on verra bien.
Bon risque.
J'avoue que j'avais... Bah, depuis 40 ans, j'avais un peu oublié Marguerite Marie. Alors, merci de me la remettre en face des yeux, en face du message de Paray. Je vais essayer d'écouter les paroles que je vais vous dire pour les mettre en pratique, si possible. Quand je suis arrivé ici, à Paray-le-Monial, bien sûr, j'ai lu des livres sur Marguerite Marie pour savoir un peu qui elle était. C'était pas évident. Il s'est passé la chose suivante avec des jeunes de Paray-le-Monial. Je m'occupais pas mal des jeunes. J'ai rencontré d'autres jeunes qui venaient de Vérouvre. Vérouvre, là où est née Marguerite Marie. Et à Vérouvre, il y a toujours d'ailleurs une communauté de sœurs franciscaines de Lyon avec qui on s'est lié d'amitié. Franciscaine, Saint-François, on a fait un pèlerinage à Assise avec des jeunes de Vérouvre et de Paray. Bon. Après, on a continué d'approfondir un petit peu le message qu'on avait capté d'Assise. Puis un jour, je me suis dit, c'est bien d'aller à Assise, et c'est super, et Saint-François, c'est quelqu'un qui nous parle, mais à Paray, on a une sainte. À Vérouvre aussi. Qui c'est Marguerite Marie? Qu'est-ce que c'est que le message de Paray? Comment ça nous parle aujourd'hui? Comment des jeunes d'aujourd'hui, y compris des jeunes de Paray et de Vérouvre, accueillent-ils le message de Marguerite Marie? Ce que j'avais lu de certaines paroles de Marguerite Marie, ça m'avait un peu perturbé. C'est le moins qu'on puisse dire. Je ne sais pas si vous avez lu des choses, mais c'est particulièrement imbuvable au niveau du langage, puis même au niveau des actes. Alors, il y a des gens, quand ils tombent sur certaines de ces paroles, ben, ils referment le bouquin en disant « mais c'est épouvantable, ça c'est dingue, c'est pas pour moi, c'est quoi ?» Pourtant, je ne me suis pas découragé, je me suis dit quand même, j'ai pris la vie écrite par elle-même et avec un groupe de jeunes de Paray, des grands jeunes, je dirais des 20-25 ans, il y en a même deux, je crois, qui étaient mariés, qui étaient en couple. On a dit, on va se coltiner ce livre, on va essayer de comprendre ce que dit Marguerite Marie, de voir comment ça nous concerne, comment ça nous touche, et qu'est-ce qu'on peut en faire. Comme ça, nous, habitants de Paray, nous, jeunes de Paray, on pourra quand même dire quelque chose sur la sainte qui rassemble tant de gens qui viennent à Paray. Donc, on a travaillé pendant deux ans et demi, sur la vie écrite par elle-même. Je me rappelle qu'on avait fait des rencontres, y compris à la visitation, puisque c'est chez nous. Les sœurs, au début, étaient un petit peu inquiètes de voir ces jeunes débarquer chez elles en se disant « qu'est-ce qui va se passer? Ils vont peut-être foutre le bazar ?» Non, non, pas du tout. Finalement, au bout d'un moment, elles se sont rendues compte de la profondeur de notre travail. Voilà. Alors, ce travail... C'est terminé par une espèce de publication que j'ai toujours, là, que j'ai retrouvée dans mes notes, qui n'a jamais été publiée parce que je ne sais pas, ça doit être, c'est peut-être comme certaines paroles de Marguerite Marie, imbuvables pour les gens d'aujourd'hui, j'en sais rien. En tout cas, on a réfléchi sur les points qui nous posaient question. Dans le message de Paray, qu'est-ce qui nous pose question quand on lit la vie de Marguerite Marie? Comment ça nous concerne, comment ça nous pose question. Alors, je vous lis quelques têtes de chapitre. La première, c'est « Dieu est-il proche ou loin de nous ?» La souffrance. problème qui nous concerne tous. Le péché, ça nous concerne aussi, tous. La réparation, c'est aussi un grand thème développé par Marguerite Marie. L'obéissance, oh là là, le don, le sens de l'Eucharistie. Puis ça se termine, le message, qu'est-ce que c'est? Le Sacré-Cœur. Bon, je ne vais pas vous lire tout le livre, mais je dirais volontiers que quand on vient à Paray-le-Monial, puis même quand on n'y vient pas, quand on est un être humain comme tout le monde, je crois que la chose, la découverte la plus importante, la plus fondamentale qu'on puisse faire, c'est de reconnaître que Dieu nous aime. Pour moi, l'essentiel de la vie chrétienne, de nos comportements, c'est relié à cette certitude qui ne doit pas être une certitude intellectuelle, mais je dirais une certitude existentielle, c'est-à-dire découvrir dans le quotidien de nos vies qu'on est aimé par Dieu. Si on ne voit pas, si on ne touche pas du doigt dans notre quotidien qu'on est aimé par Dieu, je pense qu'on passe à côté de l'essentiel. Je pense qu'on est dans le superficiel. Et donc, je dirais, pour faire court, que le message de Paray, c'est avant tout cela. Se découvrir, se savoir aimé de Dieu, pas dans la cervelle, mais en regardant dans le quotidien de nos vies des signes qui nous sont envoyés par milliers tous les jours, qui nous montrent qu'on est aimé de Dieu. Il faut qu'on touche ça du doigt. Si on ne touche pas ça du doigt, on ne sait plus qui on est, on ne sait plus ce qu'on fait, on ne sait plus ce qu'on va, on tourne autour de nous-mêmes. Alors que là, il s'agit d'accueillir tout ce que Dieu veut nous dire et nous donner au quotidien par les rencontres qu'on fait, par les lectures qu'on fait, par les pensées qu'on a, par une action de grâce qui monte en voyant la beauté de la vie, y compris avec tout ce qui est là d'inquiétant et de difficile. J'aurai l'occasion d'y revenir.
Alors, à premier point pour vous, peut-être que ceux qui traduisent, vous allez vous mettre sur le côté, ça va se troubler. Si vous entendez des petites paroles, c'est juste parce qu'il y en a qui ne parlent pas français. Donc, ce n'est pas des gens qui sont mal polis, c'est des gens qui, au contraire, essaient de faire traduire à ceux qui ne comprennent pas bien le langage. Mais mettez-vous juste sur le côté, c'est là. En tout cas, moi, à Paray, effectivement, dans l'expérience aujourd'hui avec les pèlerins, c'est vraiment ça qui me marque. Quand même, grâce de Paray, c'est cette rencontre avec le Seigneur personnellement. La proximité de Dieu dans nos vies. Rien qu'en parlant du message, je prendrai deux exemples la semaine dernière. Je rencontre une personne et je lui dis les paroles de Jésus à Marguerite Marie. Et elle me dit Je dis, ben, vous voyez, Jésus dit mon cœur est passionné d'amour pour toi en particulier. Elle me dit oui, je sais, Dieu aime chacun. Alors j'ai dit, c'est pas tout à fait ça. Jésus te dit, comment vous appelez? Elle dit, je m'appelle Paulette. Jésus vous dit, Paulette, mon cœur est passionné d'amour pour toi en particulier. Et elle dit, ah oui, c'est pas pareil. Et à partir du moment où on comprend effectivement que c'est pour nous, ben voilà, Dieu qui peut nous sembler aimer chacun, moi, le deuxième témoignage, ce sera moi-même. Quand je suis venu ici à 15 ans, je croyais que Dieu nous aimait au-dessus de nous. Dans le près du dôme, devant le Saint-Sacrement, ah ben en fait, Jésus était vraiment présent dans l'Eucharistie, il était proche de moi. Ben, ça a changé un petit peu ma vie, même un peu plus que ce que je pensais. Mais voilà, cette conscience, alors qu'on est chrétien depuis tout le temps, en fait, ah oui, je suis chrétien depuis tout le temps, mais là, Seigneur, tu es proche de moi.
Je vous lis un petit texte qui a été écrit par un de ces jeunes dont je vous ai parlé au début. Marguerite Marie vit avec Jésus. Dans le récit qu'elle fait de sa vie, il semble présent à ses côtés continuellement. Elle entre en communion avec lui, lui communiquant tout ce qu'elle ressent. Sa présence se manifeste sans cesse par les paroles qu'il lui adresse. Ces paroles n'en sont peut-être pas en tant que telles. Je pense que seule Marguerite Marie peut les entendre de par sa présence au Christ. Il parle à son cœur et non à ses oreilles. Elle transcrit ce qu'elle entend avec son cœur. Elle entre facilement en communication avec lui et lui avec elle. Il trouve en elle un cœur disposé à l'accueillir, car elle est toute à lui. Je crois que cette communion d'esprit et de cœur n'est pas due au Christ, mais à Marguerite Marie. Le Christ est proche de chacun de nous, mais il nous faut être disposés à l'accueillir, à le recevoir. Lorsque dans nos vies, dans ma vie, je me mets en prière, c'est-à-dire en état d'écoute de Dieu, je sens sa présence. Voilà. Ce jeune qui dit c'est pas le fait du Christ et de Marguerite Marie, on comprend bien ce qu'il veut dire. Bien sûr, le Christ est toujours là, mais il faut être là, nous aussi, pour l'accueillir. C'est pas la peine de faire tout un tas, de lire 50 000 bouquins, de faire tout un tas de trucs. Vous savez, il y a des paroles comme ça qu'on reçoit de Jésus qui nous marquent. Moi, il y en a une qui m'a marqué depuis très longtemps. C'est une parole, une phrase du psaume 80. C'est Dieu qui dit à son peuple, « Ouvre large ta bouche, moi je l'emplirai. » Vous connaissez cette parole, on la chante dans les psaumes. « Ouvre large ta bouche, moi je l'emplirai. » On n'a quand même pas un boulot sensationnel à faire. Hein. On a à ouvrir. Dieu, il est toujours là, il est présence. Je dis souvent, pour moi, que la prière, c'est de nous rendre présents à la présence. Dieu est tout le temps là. Nous, on n'est pas tout le temps là, on n'est pas tout le temps chez nous. Et il me semble que la prière, c'est déjà, avant toute chose, au-delà des paroles, au-delà de toutes sortes de choses, la conscience que Dieu est là. La conscience que Dieu est là. Quand on a conscience que Dieu est là, ça change tout. Ça prend une toute autre couleur, ce qu'on dit, ce qu'on fait, etc. Quand il est dit quelque part dans la Bible, prier sans cesse, il ne s'agit pas d'être à genoux quelque part et puis de dire des paroles. Parce que ce n'est pas possible, ça, tout le temps. Par contre, ce qui est possible, c'est de savoir que Dieu est là. On n'a pas besoin de se détacher de ce qu'on est en train de faire. On reste présent à ce qu'on fait, mais on sait que Dieu est là. Donc, voilà.
On peut faire un petit exercice pratique. Vous vous souvenez ce que Père Paul vous a dit hier, hein? Marie, elle se mettait en présence de Dieu tout partout. Alors, on va pas se mettre à genoux, vous allez rester assis. On va faire silence. Prendre conscience que Dieu est là maintenant aussi.
Je continue encore un tout petit peu sur ce thème parce qu'on a d'autres choses à se dire sur d'autres thèmes, mais je crois que c'est vraiment la chose fondamentale. Et vous voyez, il me semble que c'est résumé dans la première lettre de Saint Jean quand il dit « Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru ». Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Moi je crois que tout est là, il faut tout le temps remonter à cette source, Dieu est amour. Alors c'est peut-être pas toujours évident de croire qu'on est aimé par Dieu, parce que on se regarde un peu, on se trouve pas bien, on a déjà un peu vécu, on voit que l'image qu'on a de nous-mêmes, elle n'est pas toujours celle qu'on voudrait avoir. J'allais dire ça, il faut s'en foutre, il faut laisser tomber ça, c'est pas ça le problème. Dieu, il nous aime comme on est, il nous prend comme on est. Donc, il ne faut pas trop se regarder. Hein. c'est de regarder le Christ qui nous transforme. C'est pas de nous regarder nous, ça j'y viendrai dans le deuxième point parce que c'est très important aussi, c'est de regarder l'amour du Christ. La seule chose qui nous transforme, c'est peut-être pas de chercher à être bien, à être mieux sur tel ou tel point, parce que c'est encore un retour sur soi. Mais c'est de nous décentrer de lui, de regarder le Christ, de contempler le Christ, de l'accueillir en sachant qu'il nous aime. Alors, pour revenir au message de Paré et de Marguerite Marie, bon, le fait que Jésus montre son cœur, alors je ne sais pas comment il a montré son cœur, c'est vrai qu'il y a des statues où on voit Jésus qui se sort un cœur un peu sanguinolent de la poitrine, bon, pourquoi pas, mais le cœur, vous savez, c'est le centre. C'est le centre de nos vies, c'est le centre de nos décisions, c'est le centre de nos facultés d'aimer, c'est le centre de la personne. Et quand Jésus nous dit que Dieu est cœur, qu'il est cœur, ça fait peut-être contrepoids. Vous savez, ces représentations de Dieu qu'on avait des fois au XVIIIe siècle, où on le représentait sous forme de triangle, ça c'est vachement humain, ça, un triangle, hein. Parce que il y a trois faces, c'est la Sainte Trinité, il y a des fois un œil au milieu, ou alors l'œil était dans la tombe et regardait Caïn, non, c'est pas ça. Dieu est cœur, Dieu est miséricorde, Dieu est pardon, Dieu est tendresse, Dieu est amour. Non seulement il faut se mettre ça dans la tête, mais il faut l'accueillir, il faut le vivre. J'ai bien aimé tout à l'heure ce qui s'est dit quand quelqu'un a dit un condamné à mort, quand il sait qu'il est gracié, c'est quand même la joie folle. Bon, c'est vrai qu'on est tous des condamnés à mort. Pour avoir besoin d'un sauveur, il faut avoir conscience d'être perdu. Si on n'est pas perdu, on n'a pas besoin de Jésus-Christ. C'est clair. On est tous foutus. Tous. Mais parce qu'on est aimé, on est sauvé. Il y a une porte qui s'est ouverte, il y a un cœur, il y a des bras qui s'ouvrent. Et ça, c'est fondamental. Il faut y croire. On perd souvent, des fois, cette notion, cette conviction, cette certitude qu'on est attendu comme on est, aimé comme on est, voilà. On prend le deuxième point.
Oui, c'est la suite logique.
C'est la suite logique. La suite logique, c'est que on est des êtres humains soumis à tout un tas de fluctuations. Et dans nos vies, il y a ce qu'on appelle le péché, c'est-à-dire des choses qui vont contre cet amour de Dieu. Et Marguerite Marie a beaucoup insisté là-dessus. Mais qu'est-ce que c'est que le péché? Je crois que, là encore, on ne met pas toujours le péché à sa juste place. Comment avoir conscience du péché si on n'a pas d'abord conscience justement de l'amour de Dieu? Très justement, depuis le Concile, je pense, l'Église nous invite, quand on pratique le sacrement du pardon, à confesser l'amour de Dieu en même temps que notre péché. Et je ne suis pas sûr que ça se fait si bien que ça. Parce que si on ne confesse pas d'abord l'amour de Dieu, je ne vois pas comment on peut se reconnaître pécheur. On se reconnaît pécheur. Ce qu'on croit être péché, c'est quoi, des fois? C'est les dérapages qu'on a par rapport à l'image idéale de soi qu'on s'est faite un jour et à laquelle on cherche à correspondre, puis en fait, on n'y arrive jamais. C'est pas forcément ça le péché. C'est pas forcément lié au retentissement que ça a en nous lorsqu'on a fait, un acte répréhensible, qu'on a tabassé quelqu'un, par exemple, qui n'importe quoi, mais c'est vrai que c'est gros, et puis ça marque. Je crois que si on n'a pas d'abord conscience de l'amour de Dieu pour nous, on ne peut pas avoir conscience de notre péché. Voilà. Donc, et puis je crois aussi que c'est Dieu qui nous révèle notre péché. Vous savez, les saints, ce qu'on appelle les saints, moi quand j'étais jeune, que je disais une vie de saint, je me disais, oulala, le curé d'Ars qui disait qu'il était le plus grand pécheur du monde, je me dis, il en rajoute, c'est pas possible cette histoire, il en rajoute. Puis après j'ai compris que non, il en rajoute pas. Parce que plus on s'approche de Dieu, plus on voit ce que c'est notre péché. Et si on ne se rapproche pas de Dieu, ben on tourne autour de nos trucs qui reviennent tout le temps, on tourne en rond, puis voilà. Je me dis aussi que peut-être que les plus gros péchés qu'on fait, c'est ceux dont on n'a pas conscience. Et dont on s'accuse jamais, puisqu'on n'en a pas conscience. Mais c'est les plus gros. C'est des péchés d'omission. L'omission. C'est-à-dire le bien qu'il aurait fallu faire et qu'on n'a pas fait. Dans l'évangile, vous voyez la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare, il lui a même pas reproché d'être riche et de faire des gueules. Celui qui faisait des gueules tous les jours. Mais de ne pas avoir vu le pauvre qui avait faim à ses pieds. Voilà l'omission. C'est-à-dire, on fait tout un tas de trucs, on est embarqué dans nos problématiques, mais on ne voit pas à côté ce qu'il aurait fallu faire et qui était la chose primordiale. Donc, qui peut nous révéler ce qu'on ne voit pas, sinon l'amour de Dieu, qui, à l'intérieur de nous-mêmes, va nous faire prendre conscience qu'on n'est pas branché sur les choses essentielles. Voilà. Alors, je dirais aussi, c'est quoi les choses essentielles ? Ben, c'est ce que je viens de dire dans mon premier point. Est-ce que le plus grand péché qu'on fait tous, à différents degrés, et qu'on ne voit pas, est-ce que ce n'est pas justement de ne pas reconnaître l'amour de Dieu dans nos vies? Parce que si on n'est pas branché comme ça, eh ben, on passe à côté de l'essentiel. On reste à tourner autour d'une espèce de perfection qu'on s'est un jour imaginée pour nous. Et voilà, et Dieu est à côté. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Le père Benoît, il comprend. Oui, donc je crois que ça, c'est vraiment fondamental. Hein, et que ça recadre les choses. Il me semble que, d'ailleurs, vous voyez bien sur quoi on va être jugé, nous dit l'Évangile. Sur quoi on va être jugé? J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, ou pas? J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, ou pas? J'étais un étranger et vous m'avez accueilli, ou pas? J'étais malade et vous êtes venu jusqu'à moi, ou pas? J'étais en prison et vous m'avez visité, ou pas? Voilà l'omission. Voilà où l'amour du Christ nous attend. Jésus qui s'identifie aux plus pauvres. Je vais peut-être dire des choses terribles, mais quand on est devant Saint-Sacrement, c'est relativement facile d'adorer le Seigneur. On l'a posé là, on se calcule une heure de prière. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, attention. Mais n'oublions pas, alors ça c'est l'adoration eucharistique, parce que j'aime bien moi, quand on parle d'adoration, qu'on dise eucharistique. Parce que dans l'Évangile, Jésus nous parle de l'adoration en esprit et vérité. C'est pas un lieu, c'est pas un moment, c'est pas un moment qu'on a choisi nous. C'est le moment où Dieu se révèle à nous d'une façon peut-être inattendue et qu'on n'a pas perçue, sous la personne d'un pauvre ou simplement de son conjoint, à écouter tout simplement. Voilà, l'adoration en esprit et vérité. Alors, l'une l'adoration eucharistique, c'est certain qu'il y a une présence du Christ dans l'hostie, je ne vais pas dire le contraire. Mais il ne faut pas oublier la présence du Christ à l'intérieur de chaque être humain, créé à son image et à sa ressemblance, et où on est invité à le reconnaître et à le servir. Hein? L'amour vécu, je ne sais pas si on peut dire ça, mais la jauge pour savoir comment on aime Dieu, elle se vérifie dans la façon dont on aime les autres, ou pas. C'est-à-dire dans le comportement quotidien qu'on a les uns vis-à-vis des autres. Parce que c'est là où on sera jugé. Voilà. Donc, vous comprenez bien qu'il y a une relation étroite entre reconnaître l'amour de Dieu, on peut reconnaître, dans ces temps dont on a besoin devant le Saint-Sacrement. Marguerite Marie, je ne sais plus où j'ai dit ça, mais... Elle dit ceci, justement. « Savez-vous bien que sans le Saint-Sacrement et la croix, je ne pourrais pas vivre ni supporter la longueur de mon exil dans cette vallée de larmes, où je ne souhaitais jamais la diminution de mes souffrances ?» On en parlera. « Car plus mon corps en était accablé, plus mon esprit sentait de joie et avait de liberté pour s'occuper et s'unir avec mon Jésus souffrant, n'ayant plus de désir ardent que de me rendre une véritable et parfaite copie et représentation de mon Jésus crucifié. » Bon, Marguerite Marie, et comme nous tous, on a besoin de ces temps de cœur à cœur avec le Christ, au Saint-Sacrement, présent réellement au tabernacle, mais il faut que ça nous renvoie à la présence du Christ, bien réellement présent en chacun de nos frères.
Je vais revenir sur la question du péché, est-ce que tu évoques sur le sens du péché avec Saint Claude, un complément avec Saint Claude. Vous voyez, il y a deux dangers, peut-être. Le danger, c'est le laxisme, et l'autre, c'est le rigorisme. Vous voyez ? Et d'un côté, c'est « Oh, bah, c'est pas grave. Dieu est amour, Dieu est amour. » Voilà, on continue sa vie. Ou l'autre côté, dans le sens inverse, où là, c'est fini. Et comme tu le disais très bien, sur le rapport aussi à l'image que je me fais. Et alors, je vais vous lire une lettre, un bout de lettre de Saint-Claude qui est en train de discuter avec une sœur qui non, s'en sort plus. Et Claude lui dit, mais en fait, je suis attristé de voir l'état pitoyable où je vois que ces fautes vous ont mises à cause du peu de confiance que vous avez en la bonté de Dieu. Et en la facilité amoureuse avec laquelle vous devriez savoir qu'il reçoit ceux qui l'ont le plus grièvement offensé. Donc j'étais gravement offensé, mais en fait, dans l'amour que vous avez justement pour le Seigneur, vous devriez vous dire, mais Seigneur, tu veux venir me chercher en fait. Quelle image j'ai de Dieu si quand je pêche, je crois que c'est fini. Est-ce que j'ai oublié que Dieu veut vraiment, et l'amoureux qui veut sans cesse venir me chercher. Et continue ensuite justement sur le discernement des esprits, hein. Je reconnais en votre disposition présente les artifices et la malice extrême de l'esprit malin qui tâche de profiter de vos chutes pour vous porter au désespoir, au lieu que l'esprit de Dieu vous porterait à l'humilité et à la componction. Mais voilà, Seigneur, en fait, quand je pêche, est-ce que je suis en train de me dire « Ah, c'est fini, parce qu'en fait, c'est moi qui suis le centre » ou est-ce que je me dis « je pêche » Ça ne veut pas dire que je me complais dans mon péché. Et je suis désolé d'avoir péché, mais je vois le bien-aimé qui vient jusqu'à moi. Et humblement, je reconnais, Seigneur, que j'ai besoin de toi. Alors, ensuite, il va continuer sur la manière dont il pourrait prier. Voilà, Seigneur, moi, je vous glorifierai. Les autres vous glorifient en faisant voir quelle est la force de votre grâce, par leur fidélité, par leur constance. Pour moi, je vous glorifierai en faisant connaître combien vous êtes bon envers les pécheurs, et que votre miséricorde est au-dessus de toute malice, que rien n'est capable de l'épuiser, que nulle rechute, quelque honteuse et criminelle qu'elle soit, ne doit porter un pécheur au désespoir du pardon.
C'est sûr que si on se contente des choses d'une façon superficielle, est-ce que vous savez quel est le plus grand péché dont Marguerite Marie s'est accusée ?
pas.
Révélation de confessionnal.
Comme
vous voyez, le père Arnoux n'est pas si jeune que ça, si c'est ce que Marguerite Marie disait en confession.
Je le sais parce que c'est dans son bouquin, c'est qu'elle l'a écrit. Alors, c'est de s'être déguisé un jour de carnaval. Vous vous rendez compte ? Alors, j'avais perdu mon bouquin sur lequel j'avais travaillé, j'en ai retrouvé un autre, heureusement. Puis il y a un commentaire qui dit, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure au niveau de la conscience que les saints ont de l'amour de Dieu. Elle constate une telle distance entre la pureté relative de son âme et la pureté absolue du Dieu qu'elle aime, que tout ce qui n'est pas cette divine pureté, elle le qualifie de tâche et de péché. Parce que si, de s'être déguisé un jour de carnaval, c'est son plus gros péché, on se demande ce qu'elle pouvait dire les autres fois, qu'elle était avec Claude de la Colombière. Mais je vais vous dire un truc qui montre bien ça. Vous vous rappelez que dans l'Évangile, il y a eu tout un tas d'épisodes où il s'est passé tout un tas de choses, bien entendu. Il y a un moment où Pierre tombe aux pieds de Jésus en disant « Écarte-toi de moi, Seigneur, car je suis un pécheur. » Vous savez à quel moment Pierre dit ça ? C'est après une pêche miraculeuse. C'est-à-dire qu'il était ébloui devant la quantité de poissons qu'ils venaient de prendre alors qu'ils avaient pêché toute la nuit sans rien prendre. Et ça, c'est un fait concret, réel, où Pierre n'en revenait pas de l'abondance d'amour que Dieu lui donnait d'une façon très concrète, très radée par crête, parce qu'il avait été ébloui devant l'amour du Seigneur qui à un moment où il ne l'attendait plus, lui donnait la preuve de son abondante miséricorde à travers un tas de poissons qui étaient rentrés dans la barque. Voilà. Autrement dit, c'est bien quand on peut décortiquer dans le concret de nos vies des faits comme ça qu'on va prendre conscience de notre péché. Voilà. Mais c'est Dieu qui nous révèle notre péché parce qu'il nous révèle son amour. On passe au troisième point ? On peut passer au troisième point. Le troisième point, c'est la souffrance. Parce que Marguerite Marie me dit des trucs étranges qui peuvent nous perturber et qui peuvent nous laisser croire qu'elle aime la souffrance. Elle dit « J'aurais désiré que mes peines n'eussent pas cessé un moment, car depuis, il m'était toujours présent sous la figure du crucifix ou d'un ecce homo portant sa croix, ce qui imprimait en moi tant de compassion, d'amour des souffrances, que toutes mes peines me devinrent légères en comparaison du désir que je sentais d'en souffrir pour me conformer à mon Jésus souffrant. » C'est vrai que dans la façon dont Marguerite Marie s'exprime, on peut croire qu'elle aime la souffrance. Et je dis non, c'est pas possible d'aimer la souffrance ou alors on est malade. Il ne faut pas aimer la souffrance ça ne s'aime pas, la souffrance, il faut lutter contre, la souffrance, il faut la soulager. Je vous lis un petit texte d'une dame qui avait demandé le sacrement des malades avant d'être opérée d'une grave opération qui comportait beaucoup de risques. Et elle écrivait ceci. « Je me souviens d'une journée de formation de la pastorale de la santé dont le thème était « Dieu est-il responsable de la souffrance ?» Le prêtre animateur a affirmé à plusieurs reprises « La souffrance n'a pas de valeur en soi. » Elle casse, elle déstructure, déshumanise. Elle creuse une faille dans toutes les relations et d'abord à l'intérieur de soi-même. Elle tire vers le bas plutôt que vers le haut. Peut-on offrir sa souffrance à Dieu ? Si c'est un mal, une non-valeur, que vaudra notre offrande ? Simplement, nous pouvons nous présenter souffrants et demander à Dieu la force de son esprit. Ainsi, nous pourrons vivre notre souffrance avec foi et amour. C'est bien l'amour que Jésus a mis dans sa passion qui sauve le monde, et cet amour a de la valeur, pas la souffrance en elle-même. C'est seulement la joie d'aimer qui ouvre l'avenir. Je vais vous dire un truc, si je peux, parce que ça me bouleverse toutes les fois que j'en parle. Bon, ça se voit peut-être pas, mais je suis malade. Je suis atteint d'une maladie rare d'origine inconnue, qui est une aplasie médulaire idiopathique. C'est la moelle des os qui s'arrête de fabriquer des plaquettes, des globules rouges, et des globules blancs. Donc on est mal. Ça fait exactement 5 ans que ça m'est tombé dessus. Donc j'ai failli mourir parce que j'avais plus de 3000 plaquettes. Le minimum qu'on doit avoir, c'est 150 000. 3000, bon. Et j'avais déjà des vaisseaux capillaires dans les yeux qui étaient en train d'exploser, donc je voyais plus clair, etc. Et donc, je fréquente les hôpitaux, je les fréquente toujours, c'est un peu ma résidence secondaire, le CHU de Dijon, j'y vais tous les mois, j'ai eu des traitements, Alors c'est ça, je raconte ça dans un livre qui est en vente ici, qui s'appelle « Et le désert refleurira », parce que j'ai vécu cette période de maladie, j'ai été en chambre stérile pendant un mois, j'ai vécu des périodes assez étranges, mais je les ai vécues intérieurement, avec beaucoup de paix et beaucoup de joie, ce qui est quand même pas banal. Et j'ai attribué cette paix et cette joie à l'amour et à la prière des autres, ce que l'Église appelle la communion des saints. Il y a un moment, je me suis demandé si dans cette petite cellule de chambre stérile, où j'avais 5... tous seringues, j'avais 15 tuyaux qui m'entraient dans le ventre, qui me faisaient passer un sérum anti-lymphocytaire de cheval, bon, pour essayer de me mettre complètement à plat pour me requinquer après. Bon, bref. Et j'ai vécu ça étonnamment dans une. J'étais presque dans l'antichambre du paradis. Bon, allez comprendre ça. Tout le monde me plaignait, le pauvre, il est peut-être foutu, etc. Bon, alors je me suis dit, là, il y a un truc, hein. Et j'ai vécu ça en communion profonde avec le Seigneur. Dans ma petite piole où j'étais, je voyais des petites lumières rouges, là où atterrit l'hélicoptère pour ramener les malades, quoi. Là, je me suis dit, tiens, voilà la lumière rouge du tabernacle. Il y a donc la présence réelle ici. La présence réelle par les malades, hein, j'étais malade, par les médecins qui guérissent au nom du Christ. Donc voilà, j'ai vécu ce truc-là. Alors il m'est arrivé un truc qui essaye d'expliquer au niveau de la souffrance, puis qui m'a instruit un peu aussi, parce que évidemment, si on ne soigne pas les souffrances, on est complètement dingue, quoi. C'est pas du masochisme, ce truc-là. Hein. Mais il y a des souffrances qu'on porte parce qu'on ne peut pas faire autrement que les porter, parce qu'elles sont là. Bon. Il y a une nuit, enfin, j'étais, si vous voulez, on me pesait tous les matins. Je me dis, c'est quand même un peu trop drôle, qu'est-ce qui se passe. Et il y a un matin, je pesais 5 kilos de plus que la veille. Oh, j'ai dit, là, la balance est détraquée, etc. Mais pas du tout. Parce qu'avec tout ce qu'on me mettait comme drogue, comme machin, je faisais de la rétention d'eau. Et donc, je pouvais prendre ou perdre 5 kilos en une journée sans que je m'en rende compte. Et j'ai été mis au régime sec. On m'a limité en eau. Je devais boire pas plus qu'1,5 litre par jour. Je vous assure qu'une fois qu'on a enlevé le café, la soupe et puis un petit peu quand même le truc, ça fait pas beaucoup. Hein. D'autant plus que je buvais aussi du Coca-Cola, figurez-vous, parce que j'avais j'avais une drogue à prendre. Ah mais c'était la prescription médicale. Ça potentialisait l'effet de certains médicaments. Et donc, le professeur qui me suivait faisait boire du Coca-Cola. Bon. Et une nuit, j'ai mal géré.
C'est pas pire que de se déguiser le jour du carnaval que de boire du Coca-Cola. Ah, une consolation.
Une nuit, j'avais mal géré ma quantité d'eau. Et je me suis retrouvé le soir avec plus d'eau. Et petit à petit, j'ai ressenti une soif et quelque chose d'horrible. Je ne sais pas si vous avez déjà eu soif, vraiment soif. Mais on croit qu'on va mourir, hein. On croit qu'on va calancher. C'est pas possible. Je me rappelais les psaumes, ma langue est sèche comme un tesson, ma langue est collée à ma mâchoire, etc. Les psaumes m'ont beaucoup accompagné pendant ce temps de maladie et ils ont pris une coloration très nouvelle parce que je vivais en direct certaines choses. Et voilà que cette nuit-là, 20 février 2014, n'oublierai jamais, je me dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce que je vais devenir? Et plus ça venait, plus je pensais que j'allais mourir de soif. Et évidemment, il m'est venu... Excusez-moi, toujours avec beaucoup d'émotion que je parle de ça, il m'est venu la présence du Christ sur la croix qui a soif et qui dit j'ai soif. Et je me suis senti une espèce de communion profonde avec lui, avec le Christ qui a soif. Et à ce moment-là, il s'est passé une espèce de relations intérieures assez extraordinaires et je me suis senti un peu devenir Jésus qui souffre. Bah. Seigneur, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Puis, je dis, mais si tu es en train de sauver le monde, tu vas quand même pas renoncer. J'ai accueilli cette soif comme la souffrance que le Christ a accueillie pour sauver le monde. Et il y a une joie incroyable qui m'est venue, non pas parce que je souffrais, mais parce que j'étais avec le Christ qui sauve le monde. Donc ça, c'est ce que Marguerite Marie explique à sa façon à elle, avec ses mots à elle. Quand on souffre, il ne faut pas aimer la souffrance, il ne faut pas la vouloir. Mais ce qui peut est une porte, c'est de s'unir à Jésus qui sauve le monde. Vous savez, Blaise Pascal a dit, Jésus-Christ sera en agonie jusqu'à la fin des temps, il ne faut pas dormir pendant ce temps-là. Et puis quand on sent qu'on est unis au Christ qui sauve le monde, mais c'est prodigieux. Mais c'est prodigieux. Mais c'est phénoménal. Alors, j'ai bien conscience que ça m'a été donné. C'est pas moi qui a décidé que. Et je pense que, voilà, ouvre la rue, ta bouche, et moi je l'emplirai. Ça a été rempli comme ça ce soir-là.
Alors je vais compléter avec l'expérience de Claude. Vous savez que Claude est tombé gravement malade. Au départ, il pensait qu'il allait être guéri. Et puis finalement, il voit que ça va, au moins ses forces reviennent. Et puis, justement, pour faire le pendant avec ces paroles de Marguerite Marie dans le sens qu'on vient bien de comprendre, justement très précis, bien écoutez comment Marguerite Marie réagit à la maladie de Claude. Dans ce que Claude transmet. La personne dont je vous ai communiqué les lettres, c'est très discret, mais c'est Marguerite Marie, a dit toujours, jusqu'à présent, qu'elle était sur le point de ne prier plus Dieu pour moi. Marguerite Marie dit à Saint-Claude, je vais arrêter de prier pour toi. Pourquoi ? Voyant que plus elle priait, plus mal je me portais. Alors, il y a plein de choses derrière, parce qu'il y a tout. On voit la relation d'amour de Marguerite Marie avec Jésus et son chantage un peu affectif. Seigneur, je prie pour Claude, si tu continues comme ça, je vais arrêter de prier. Donc, s'il continue à tomber tous malades, je vais arrêter. Donc, derrière, on voit quand même bien qu'il y a pas, c'est pas un culte de la souffrance. Voyez, on n'est pas du tout dans une recherche. Elle va même plus loin. Il y a un mois et demi que l'étant allait voir, elle me dit que notre Seigneur lui avait dit que si je me portais bien, ça c'est un peu la signification, si je me portais bien, je le glorifierais par mon zèle. Mais qu'étant malade, il se glorifiait en moi. Donc, tout, que tu sois en bonne santé, que tu sois malade, tu glorifies Dieu. Tu peux glorifier Dieu. Et Dieu peut se glorifier en toi. Et on continue. Néanmoins, ceci étant dit, elle me recommande extrêmement le soin de ma santé et me conseille de ne plus dire la messe que j'avais dite durant l'octave de Saint-Xavier, mais de me contenter de communier tous les jours. Alors, quand on sait l'importance de l'Eucharistie, l'importance de ce qui est célébré pour un prêtre, tout ça, hein, la place de l'Eucharistie centrale dans le message de Paris, Marguerite Marie, dans ce souci pour Claude, va jusqu'à lui dire « Je pense qu'il n'est pas bon que tu célèbres la messe. » Donc, je pense que ce texte-là vous repose bien le cadre de cette souffrance dans tout ce que le Père Jean-François nous a dit. Et puis... Et puis après, la manière dont nous nous accompagnons. Voilà. Et la petite phrase qui est un peu toujours originale, c'est Claude lui-même qui dit à la fin, « Je crois que Dieu pourrait bien me renvoyer la santé pour me punir du mauvais usage que je fais de la maladie. » C'est toujours une phrase comme ça. Je suis vraiment, vraiment pas bon, moi, dans la maladie. C'est vraiment pas bon. J'arrive vraiment pas. Donc je crois que le Seigneur va dire, « Toi, mon petit gars, si tu continues comme ça, je te rends la santé. » Oh non, c'est... Moi, là, on arrive vraiment dans le mystère que Jean-François nous a dit de
dernier point. Alors le dernier point, j'ai pas trop d'éléments là-dessus parce que voilà, parce que j'en ai pas. Mais le père Benoît en a. Alors il va amorcer la pompe.
Le dernier point que je voulais évoquer avec vous, c'est la place de la vie fraternelle, avec un thème un peu particulier, c'est celui de la correction fraternelle. C'est un thème qu'on n'emploie plus trop. Il m'est venu il y a quelques semaines. Il y avait toutes les sœurs fédérales de la visitation du monde entier qui sont venues ici à Paris-Montréal et qui ont été assez renouvelées d'abord par la place du Sacré-Cœur, au fond, l'importance du cœur de Jésus dans la communauté qui avait pu être oubliée. Et même Marie-Simon du monastère de la visitation leur a bien montré comment, au fond, Marguerite Marie, dans ses écrits, elle reprend les écrits de Saint-François de Sales. Et elle dit notamment que ces lettres, c'est vraiment la dévotion, le traité de la vraie dévotion, et que les écrits, c'est plutôt le traité de l'amour de Dieu, ou inversement, je ne sais plus dans quel sens. En tout cas, c'est vraiment comment Marguerite Marie a profondément intégré Saint-François de Sales et l'a transmis aussi dans ses écrits, dans sa vie quotidienne. Et donc, il y a ce passage assez étonnant où Jésus vient voir Marguerite Marie pour qu'elle reprenne ses sœurs de communauté. Et en fait, Marguerite Marie, quand elle entend cette demande du Seigneur, elle dit « Non, ça, je ne peux pas le faire. » Alors, elle est plus subtile que ça. Elle dit « Seigneur, je suis... » Vous savez qu'elle ne supportait pas le fromage et qu'elle ne digérait pas le fromage. Et elle dit au Seigneur « Seigneur, je suis prêt à manger tout le fromage que tu veux. Jusqu'à en vomir autant que tu veux, mais ça, je ne le ferai pas. » Et alors, le Seigneur revient la voir et dit « Eh ben, je te demandais quelque chose à faire en privé. » Puisque tu ne veux pas le faire, tu le feras maintenant en public, devant toute la communauté, sur des points de conversion, en fait, sur la charité fraternelle, sur voilà, cette attention-là. Et elle va se mettre à genoux au milieu de la communauté et elle va le prier. Et vous voyez, on l'a entendu beaucoup ces dernières semaines dans les lectures. Vous vous souvenez, quand ton frère commet un péché, va trouver ton frère et tu auras gagné ton frère, et s'il ne se reprend pas, ben tu ne seras pas responsable. Et donc, il y a cette mission de travailler la communion fraternelle, qui est une vraie délicatesse, une manière d'approcher. Et donc, Marguerite Marie rentre bien souvent dans ces textes, et Mère Marie-Simon m'a transmis ça, donc je trouvais important de l'intégrer ici, dans ce thème, sur le place de la communion fraternelle, et comment Marguerite Marie était aussi au cœur du monastère, un peu médiatrice de cela. Alors, il y avait des points de conversion chez ses sœurs.
et certains ne vont pas bien l'accepter, qu'on a fait le tour du monastère. Mère Marie-Simon nous a montré le carrefour dans le cloître à la hauteur où il y a le crucifix, et c'est le lieu des douleurs, tel, et c'est là que les sœurs, à la sortie de la récréation, où Marguerite Marie a fait sa déclaration, les attendaient dans le coin du cloître pour lui tirer les cheveux. J'ai du mal à imaginer, mais enfin, il y a une scène là, il y a quelque chose qui s'est passé entre femmes qui est un peu surréaliste. Et comment est-ce que Marguerite Marie a accepté de faire ça alors même qu'elle se doutait bien des conséquences que ça allait avoir? Voilà. Et donc, comment est-ce que des fois j'ose une parole qui n'est pas forcément agréable à dire, mais parce que c'est pour le bien de la communauté, même si je me dis que ce ne sera pas bien reçu. Donc il y a ce thème-là, cette orientation. Alors il y a plein de choses sur la communion fraternelle, hein, mais cet axe-là de la communion fraternelle, sur lequel il faut vraiment prier l'Esprit Saint et tout, et sur lequel on est invité aussi à avancer les uns les autres, hein, parce que l'objectif c'est qu'on avance de la sainteté.
Alors là, je veux bien aussi dire quelque chose. Je pense que c'est fondamental ce que tu dis là, qu'on a des silences coupables, qu'on est à une époque où on n'ose pas dire certaines choses sous prétexte que c'est pas nos oignons, que ceci, que cela, moyennant quoi on laisse faire le mal, moyennant quoi on laisse faire certaines choses inacceptables. Et ce que je dis là, c'est valable y compris à l'intérieur des couples, où on n'ose pas dire certaines choses en se disant « oh, ben ça va passer » ou je sais pas quoi. Ça ne passe pas tant que ça. Quand on a des non-dits, surtout quand on vit dans l'intimité d'un couple, si on ne dit pas, ben au bout d'un moment, il y aura plusieurs non-dits, ça va faire des bombes à retardement qui vont exploser à un moment ou à un autre. Ce n'est pas du boulot. Je vais vous donner un exemple aussi que j'ai vécu. Moi, je suis un prêtre d'après mai 68, n'est-ce pas?
Alors, on peut quand même l'applaudir, parce qu'un prêtre d'après mai 68 qui est encore là aujourd'hui, on a beaucoup qui sont là.
Bon, il n'y a pas eu que du mauvais dans mai 68. J'étais au séminaire à Lyon parce que le séminaire d'Autun avait fermé. Je revenais de 2 ans de coopération au Sénégal et j'ai retrouvé un séminaire tout à fait différent de celui que j'avais connu à Autun, qui était de type monastique. On était des moines, là. À Lyon, c'était la grande ville, c'était le bouillonnement des idées d'après mai 68, mais il y a quelque chose qui m'a marqué pour toujours, c'est que, donc c'était tout à fait une autre vie, mais on avait ce qu'on appelait des équipes de vie, on était 4 ou 5, et on se retrouvait tous les mois pour faire une espèce de révision de vie, pour faire un partage, etc. Et au cours de ces rencontres, il était convenu qu'on se disait les uns aux autres comment on se percevait. Et que les choses négatives qui pouvaient être dites n'étaient pas perçues comme des agressions ou des remises en cause, mais un petit peu comme un miroir pour dire voilà, moi je te vois comme ça, j'ai perçu ce que tu as dit ou ce que tu as fait comme ça. Et c'était pris comme quelque chose qui nous permette de réfléchir pour qu'on puisse un petit peu modifier nos façons de faire. J'ai vécu ça pendant ce séminaire et après, parce que au début de ma vie de prêtre, on a été nommé 4 jeunes prêtres à Mont-Soleil-Mines déjà à l'époque. Et on était accueillis par l'équipe de prêtres qui était en place, qui nous pilotait un petit peu dans nos premières démarches pastorales. Mais on se retrouvait tous les soirs pour casser la croûte ensemble, pour partager, pour se dire des choses. Et toutes les semaines, on se disait comment on s'était perçu les uns les autres pendant la semaine. Eh bien, j'ai trouvé ça sensationnel. Et dans la mesure où c'était fait dans la charité, pas pour enfoncer. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on ne peut absolument plus faire ça. Que si vous prenez des pincettes en disant la moitié du quart de l'ombre de quelque chose qui pourrait ressembler comme une... L'autre se sent agressé, remis en cause dans son humanité, dans sa... Et puis du coup, on n'avance pas. On se ferme comme des huîtres, et puis voilà, puis quoi? Alors c'est pour ça que bon, ce qu'on peut appeler la correction fraternelle, ça ne veut pas dire qu'on va se situer supérieurement à celui à qui on fait une remarque. Ça veut dire que c'est comme C'est comme un apprenti. Si celui qui est chargé de le former ne lui dit pas comment il fait des erreurs, il ne va jamais savoir bosser comme il faut. Hein, l'apprentissage, c'est ça. Et ça, c'est une forme d'apprentissage. Comment on peut s'entraider à grandir en mettant le doigt sur les choses qu'on ne fait pas bien. Là, il y a tout un chantier. Mais j'avoue que je ne sais pas comment il faut faire. Parce que je sais qu'il faut parler. Moi, j'essaye de parler aussi. Et ma maladie m'a rendu libre. Hein. Ma maladie m'a rendu libre. La pensée de la mort que j'ai frôlée m'a rendu libre et heureux. Je suis un vivant. Et je pète le feu.
Alors, merci beaucoup. Moi, il y a un point que je voulais compléter aussi par rapport à l'adoration eucharistique.
Ouais.
Comment c'est important pour nous, comment cette heure que nous pouvons prendre fidèlement nous conduit à continuer à adorer. En fait, c'est le tremplin, c'est-à-dire que. Est-ce que tu nous as bien aidé, mais je pense un appel pour nous. Comment est-ce que quand je sors, pour ceux qui sont parmi nous des adorateurs fréquents, notamment de la chapelle Saint-Jean ou autre, comment je sors de cette chapelle en, au fond, mon cœur a été disposé pour pouvoir retraverser le parc et continuer dans l'adoration là. Et comme le disait le Père Paul hier, à me remettre à genoux n'importe quand dans la journée, parce que là, et comme, voilà, comment on continue cette adoration en esprit, en vérité, qui ne se limite pas à la temps dans la journée, je voulais confirmer ce point-là, ce n'est pas un temps particulier, mais qui est une invitation à élargir, en fait. Au fond, ce n'est pas une heure de présence, pour ceux qui sont à la garde d'honneur, c'est pas seulement une heure, c'est 11h midi, moi, hop, et à midi et demi, l'adoration, c'est carrément fini, non, je reste, l'enjeu, c'est cette heure ou ce moment, et là, pour me tendre toute la journée.
Saint Jean Chrysostome a des paroles étonnantes par rapport à ce qu'on est en train de dire, en disant que Saint Jean Chrysostome, père de l'Église, 4e siècle, bon, il dit, faut faire attention, c'est pas la peine d'entourer le Saint-Sacrement d'or et de pierreries et de le mettre dans une boîte si on ne le reconnaît pas quand il est dans la rue en haillons. Et il va même très loin, il dit parce que cette présence-là, elle est plus honorable que l'autre. Enfin, je laisse ça à votre... c'est pour ça qu'il ne faut pas couper les choses en tranches, mais il faut les relier. C'est ce que tu viens de dire très bien. Et je pense que ça, c'est très important, parce que l'adoration eucharistique doit amener à l'adoration en esprit et en vérité. Et l'adoration en esprit et en vérité doit aussi nous permettre à ces temps de cœur à cœur si précieux où Jésus nous parle directement dans un silence, mais c'est un moment qu'on a choisi, alors que l'autre, on ne l'a pas choisi, quand il vient à nous, qui frappe à la porte, et que peut-être on n'a pas toujours le soin de le reconnaître. Voilà.
Merci beaucoup. Je vous donne rapidement la suite.